Chaque samedi, je vous retrouve pour vous présenter des documentaires biographiques de femmes et d'hommes d'exception. Quelle fut la vie de celle ou de celui qui fit œuvre? Comment l'œuvre et la vie se nourrissent-elles l'une l'autre? Entre découvertes, connaissances et émotions, nous nous engageons sur la piste de toutes celles et ceux qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Toute une vie. Nous sommes en avril 1896. Un film se tourne sur le mur des établissements Gaumont. On y a dressé une toile peinte par un éventailliste du voisinage. Dans le jardin, on a disposé des choux en carton. Celle qui s'apprête à tourner le film, la fée aux choux, a 24 ans. C'est la première femme réalisatrice au monde. Aujourd'hui, Élise Gruau et Vincent Deck vous proposent le portrait d'Alice Guy, 1873-1968, c'est toute une vie à inventer le cinéma.
Alice Guy, 1873-1968, la femme aux mille films. Élise Gruau et Vincent Deck.
Je suis très honoré d'être parmi vous ce soir pour remettre à titre posthume le prix du réalisateur à Alice Guy Blaché pour l'ensemble de sa carrière de 1896 à 1920. D'abord en France, puis ici, le New Jersey, Alice Guy Blaché, metteur en scène, a écrit et produit plus d'un millier de films en tout genre. Elle fut une véritable pionnière, un des tout premiers cinéastes et la toute première femme à posséder et exploiter son propre studio.
New York, 2011, Martin Scorsese préside la cérémonie en l'honneur de la cinéaste Alice Guy, plus de 50 ans après sa disparition.
Elle fut aussi une pionnière dans l'histoire de l'audiovisuel aux côtés des frères Lumière, de Méliès, de Griffith, de Chaplin. « Oh, j'ai le droit d'être là où je suis », déclara-t-elle en 1912 dans un entretien. C'est un conflit permanent lorsqu'une femme tente de diriger et de superviser des hommes dans leur travail. Vous devez garder en tête que pour chaque titre des débuts du cinéma qui a pu être conservé, plus de 1000 ont disparu à jamais. Et sur le millier de films tournés par Alice Guy Blaché et signés de son nom, seulement 130 ont survécu. Et c'est une tragédie, car elle était bien plus qu'une femme d'affaires talentueuse. Elle était une cinéaste d'une sensibilité rare, avec un regard incroyablement poétique et un instinct formidable pour choisir les bons lieux de tournage. Aussi, c'était le vœu de la Directors Guild of America de décerner à Alice Guy Blaché ce prix spécial pour l'ensemble de sa carrière et d'apporter une meilleure reconnaissance du rôle des femmes dans l'industrie cinématographique. Maintenant, regardons le travail de l'une des plus grandes pionnières du cinéma, Alice Guy Blaché.
Pendant des décennies, le cinéma lui devait beaucoup, mais tout se passait comme s'il ne le savait pas. Après une longue période d'oubli, de recherche de ses films disparus, les efforts des passionnés sont parvenus à remettre l'œuvre d'Alice Guy en lumière et à lui redonner sa juste place dans l'histoire du cinéma. Avec elle, c'est une plongée dans l'archéologie du 7e art. À l'époque où les films étaient encore muets, les images sautillantes et où les pionniers inventaient au jour le jour. Alice Guy, c'est une vie romanesque et une destinée exceptionnelle, dont les débuts à la fin du 19e siècle étaient déjà vagabonds et cosmopolites.
Alors Alice Guy, elle est née en France de parents qui habitaient au Chili. Son père était libraire au Chili. Et donc, elle a grandi les premières années, c'est la cinquième d'une fratrie.
Véronique Lebris, critique de cinéma.
Et elle a grandi les premières années avec sa grand-mère en Suisse, qui était donc manifestement sa période la plus heureuse de sa vie. Et après, elle a été rapatriée au Chili, ce qui était un choc un peu pour elle. Elle est rentrée en France adolescente et son père a fait faillite, en fait. Et il est mort avec son frère assez vite. Et donc, elle s'est retrouvée à une vingtaine d'années avec à sa charge sa mère, puisque ses sœurs s'étaient mariées. Et donc, un ami de la famille lui a conseillé d'apprendre la sténo pour un peu la sortir de sa situation, ce qu'elle a fait. Et elle a été embauchée chez Gaumont à 22 ans, je crois. Gaumont, à l'époque, s'occupait d'une société qui s'appelait le Comptoir de la photographie, qu'il a racheté peu après. Et donc, voilà, ça a été sa secrétaire pendant quelques années.
Alice Guy, à 23 ans, est la secrétaire d'un jeune patron qui vient de créer une start-up.
Jean-Michel Frodon, critique de cinéma.
Une petite boîte innovante avec des nouvelles technologies à avoir avec le cinématographe qui s'appelle Léon Gaumont et qui crée la firme Gaumont que nous connaissons toujours. Et elle assiste avec lui à une projection tout à fait mémorable, qui est une projection privée pour des patrons et pour des gens du monde des sciences et des techniques en mars 1895. Donc 9 mois avant la première projection publique des Frères Lumière, du cinématographe Lumière. Elle y voit donc les premiers films de cinéma. On connaît le programme de cette séance. Il y a la sortie des usines Lumière, le déjeuner de bébé, etc. Et puis il y a un film qui, à la différence des autres, est ce que nous appellerions aujourd'hui un film de fiction. Une comédie, L'arroseur arrosé, où là, ce sont des gens qui jouent un rôle et qui font le gag assez connu du jardinier qui regarde dans son tuyau.
La lumière s'est éteinte et nous avons vu apparaître sur l'écran des choses qui sont devenues classiques, c'est-à-dire L'arroseur arrosé, les sorties de leurs
usines ateliers, Lumière, oui.
Une partie de carte, je ne me souviens pas exactement quoi. Enfin, c'était la naissance du cinéma.
Alice Guy, en 1957, à la télévision française.
Mais enfin, on a continué les essais, on a cherché, et très vite, Gaumont a trouvé un appareil projecteur, car enfin, la grande invention, c'est la projection, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, on continuait à prendre dans les rues des scènes de rue, des petites choses arrivées en gare, etc. Et moi, j'étais fille de libraire et j'adorais la lecture, j'avais beaucoup lu, j'avais fait un petit peu de théâtre d'amateur et enfin, il me semblait qu'on pouvait faire mieux. Et j'ai proposé à M. Gaumont de faire quelques scènes de cinéma. Oh, il m'a dit, oui, c'est une affaire de jeune fille, je veux bien. La condition, surtout, que ça n'empiète pas sur votre courrier. Alors, j'arrivais à 8h du matin chez Gaumont, et je dépouillais le courrier, je le distribuais, etc. Et puis, je m'en allais à côté des travaux photographiques. Il y avait un terrain absolument nu, n'est-ce pas, avec une petite terrasse bitumée. Et c'est là-dessus que nous avons commencé avec mon opérateur, mon caméraman. Et quand on critique les premiers films, ça me fait toujours mal au cœur parce que si les gens avaient vu dans quelles conditions nous le faisions, n'est-ce pas? Et là, j'ai fait mon premier film qui s'appelait La fée aux choux.
Que va faire Alice Guy rapidement? C'est de proposer de généraliser la réalisation de films de fiction, ce qui n'était pas du tout le cas. À l'époque, Léon Gaumont, il a monté une petite boîte qui veut vendre aux gens des projecteurs. Et il leur fournit en plus des bandes à passer dans ces projecteurs, puisque sinon les gens n'en auraient pas l'usage. Mais l'idée était même de les donner, ces bandes, pour justifier l'achat de l'appareil. Et pour ce faire, il envoyait des gens avec des caméras filmer dans la rue des voitures qui passent, peut-être une petite situation intrigante ou étonnante qui pouvait se produire, mais c'est tout. Et c'est Alice Guy qui lui propose de mettre en scène des situations de fiction, qui viendrait enrichir ce qui va devenir le catalogue Gaumont, qui n'est pas du tout son projet à l'époque, hein, Monsieur Gaumont, Léon. Et il est d'ailleurs, il n'y croit pas trop, il finit par accepter l'idée en disant « Ok, mais faites ça en dehors de vos heures de travail ». Et elle va réaliser son premier film, « La fée aux choux », en 1896, qui est, on pourrait dire en tout cas, le premier film fantastique, puisque c'est une toute petite histoire où une dame qui interprète une fée sort un bébé dans un potager rempli de choux et le fait apparaître. C'est vraiment de la fiction, puisque c'est tourné dans l'arrière-cour de là où il y a les bureaux Gaumont, mais on a refabriqué les choux en plâtre et en bois, et on les a peints, même si c'est en noir et blanc, et que donc on est dans l'artifice, et dans la fabrication, et dans une sorte de tour de magie, puisque ça utilise un très simple trucage pour faire apparaître le bébé qui a l'air de sortir du chou à la grande satisfaction de la fée. C'est un triomphe, un peu à la grande surprise de Léon Gaumont. Ça marche très bien et aussitôt, il lui en commande toute une série. Enfin, il la nomme, elle devient réalisatrice et productrice au sens où elle mobilise d'autres talents, dont les deux plus célèbres de l'époque, Fernand Zeka et Louis Feuillade, qui vont devenir respectivement le plus grand cinéaste chez Pathé, la maison concurrente pour Zeka, et chez Gaumont pour Feuillade, réalisateur de Fantomas, des vampires, etc. Ces deux messieurs ont été engagés par Alice Guy pour travailler à ses côtés, pour multiplier la réalisation de ces petites bandes qui étaient donc commercialisées avec les appareils que vendait la firme Gaumont.
Je suis beaucoup intéressé au cinéma primitif, ce qu'on appelle le cinéma primitif, donc avant l'élaboration des codes narratifs et des codes formels. Et Alice Guy, vraiment, c'est le tout début du cinématographe.
Daniel Chocron, historien du cinéma.
Donc ça m'a intéressé parce que c'était en plus une femme et qu'à l'époque, il y avait très peu de femmes qui travaillaient. Et Alice Guy, elle, a toujours été indépendante, a été une femme libre et elle a toujours voulu travailler dans le cinéma. Dès qu'elle a connu le cinéma grâce à Léon Gaumont, elle est devenue vraiment quelqu'un d'opiniâtre pour vraiment s'intéresser au cinéma, qu'elle appelait d'ailleurs son prince charmant. Tout de suite, elle a imaginé que le cinématographe pouvait servir à raconter des histoires et pas seulement à prendre des vues prises sur le vif. À l'époque, on filmait des défilés militaires, des mariages, dans les premières projections qui avaient lieu chez les forains, hein, parce que le cinéma est aussi un art forain. On montrait donc dans l'arrière-fond des fêtes foraines, on montrait donc des vues où les opérateurs lumière notamment étaient partis à travers en Afrique ou en Asie pour montrer des animaux sauvages. Et le fait de découvrir des animaux sauvages pour les spectateurs, c'était extraordinaire. C'est pour ça qu'il y en a eu énormément. C'était le seul moyen véritablement de découvrir des animaux, de voir d'autres cultures aussi. Quand on voyait en Chine, les grands marchés, les métiers à tisser, etc. C'était très différent. Et ça a passionné les gens. Et Alice Guy, elle a vraiment été la pionnière du cinéma, un petit peu avant Méliès, hein, d'ailleurs. Hein. Elle n'a pas inventé le spectacle cinématographique comme Méliès l'a inventé. Mais son rôle a été de défricher un peu le cinématographe, parce qu'elle apprenait en même temps qu'elle créait. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle découvre la place de la caméra. Et alors, au début, elle va tourner avec des amis, avec des gens qu'elle a rencontrés dans des cirques, dans des musicals, car tout ça est très mêlé au début du cinéma. Le cirque, le musical, le cinéma, le théâtre. Et donc, elle va vers des toiles peintes dans les premiers décors. Elle va demander à des peintres de la Porte Saint-Martin de faire des toiles peintes, notamment pour la fée aux choux, etc. Mais moi, je dirais aussi qu'il y a un regard aussi quand elle filme Loïs Fuller dans une danse serpentine, parce que quand elle filme cette danseuse remarquable, en 2-3 minutes, elle montre quand même l'évolution de la danse, presque un découpage de la danse. Hein. Et même dans un film que les enfants adorent, qui s'appelle « Clown, chien et ballon », où on voit un chien qui renvoie un ballon comme ça à un clown. Ça dure 2 minutes, mais c'est formidable, c'est très drôle. Et en même temps, ça n'arrête pas de bouger. Elle prend plusieurs plans, elle essaie vraiment des choses. Et ensuite, elle va améliorer, évidemment, au fur et à mesure qu'elle tourne, qu'elle a l'habitude de la caméra, etc. Elle va commencer à aller en extérieur aussi, avec les grosses caméras. Et elle allait dans les lieux de tournage à l'extérieur en fiacre. Vous voyez, c'est assez amusant. Elle avait sa grande robe avec sa petite voilette et tout. Elle gardait toujours son petit sac comme ça, en même temps qu'elle tournait. Elle disait moteur, hein, et ça partait, vous voyez. Donc elle découvrait le cinématographe en même temps qu'elle le faisait. Et en même temps, c'est encore plus formidable que ce soit une femme.
Alice Guy, dans ses mémoires, se souvient des tout débuts de ses tournages. Mes lecteurs, si j'en ai, doivent se rendre compte des conditions dans lesquelles nous travaillions. Les appareils du début, avec leur magasin extérieur mal ajusté, les modes d'entraînement du film pas encore au point, les trépieds qui étaient ceux employés pour la photographie ordinaire et qui s'enfonçaient dans la terre meuble de notre jardin, ne leur assuraient pas une très grande stabilité. Nous ne disposions que d'un objectif. La traction de la bande se faisait grâce à une manivelle extérieure fonctionnant à la main. Le cadre, garni de velours, retenait des poussières qui rayaient l'émulsion.
Alors, au même titre que Georges Méliès, elle va découvrir par hasard, parce qu'à l'époque, les techniques cinématographiques, les découvertes cinématographiques, ça se faisait par hasard, elle va découvrir les effets spéciaux, des différentes surimpressions, l'inversion des films, etc. À travers des différentes figures d'effets spéciaux et de trucage, par hasard complètement, elle va aussi faire partie, avec Méliès, du spectacle cinématographique de ce point de vue.
C'est grâce à l'expérience acquise au jour le jour, au hasard, à la chance, que nous découvrîmes 100 petits trucs, tels que film tourné à l'envers, permettant de prendre une maison s'écroulant et se reconstruisant comme par enchantement. Un personnage tombant d'un toit et remontant spontanément. Un client gourmand trouvant chez le pâtissier sa note trop élevée et rendant intacts les gâteaux engloutis. Ou encore, le ralentissement, l'accélération du tour de manivelle, transformant de paisibles passants en êtres pris de frénésie ou au contraire en dormeurs éveillés. Les arrêts, permettant de déplacer un objet qui à la projection semblait animé d'une vie surnaturelle. La prise de vue à différentes distances, rendant possible la représentation sur la même image de pygmées et de géants, comme dans mes films « Lilliput et le Gulliver »,« L'ogre et le petit pousset » ou « Le cakewalk de la pendule ». Les surimpressions, les fondus, employés pour les visions, les rêves. Les maisons concurrentes qui naissaient rapidement s'emparaient de nos découvertes dès que nous en faisions.
En 1902-1903, il faut savoir que Alizy ne s'est pas contentée d'être une pionnière au niveau des prises de vue, elle a aussi participé à l'invention de ce qu'on appelait des chronoscènes, qui viennent en fait du terme de chronophone, qui est un appareil qui réussit à unifier un enregistrement sonore avec un enregistrement du film. Et elle a filmé 160 environ, hein, 160 chronoscènes, qui sont un peu les ancêtres des clips, où on voyait en plan fixe, hein, en plan général la plupart du temps, des airs d'opéra ou des chansons populaires, qui était interprété par des artistes vedettes, souvent. On voit vraiment l'ancêtre du clip. Alors, il y avait Dranem, la belle Otero, Paulin, qui était le grand turlourou, c'est-à-dire comique troupier de l'époque, était l'idole de Fernandel. Et donc, elle va aller filmer durant 1 ou 2 minutes, le temps d'un air ou d'une chanson très courte. Alors, évidemment, le son pas très bon, etc. Mais il y a aussi des tentatives de colorisation. Donc, elle tente des choses, elle essaie des choses. C'est colorisé, hein, mais ça donne une impression de colorisation réelle.
Mais dites-moi donc, Rosine, ma belle voisine, est-ce vrai ce qu'on dit sans façon dans toute la maison ? On prétend que vous êtes ma chère très hospitalière, que le voisin d'en bas sûrement serait votre amant.
Daniel Chocron, dans ses phonoscènes d'Alice Guy, le son existe associé à l'image. Alors que sait-on de la partie sonore des films de fiction d'Alice Guy ?
Moi, je dis souvent que le cinéma n'a jamais été silencieux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des pianistes, la plupart du temps, qui étaient dans les salles et qui jouaient. Eh bien, ces gens-là jouaient un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas adéquation entre les sons, la musique et les images. Et dans les films d'Alice Guy, je pense qu'il y avait des pianistes et ils interprétaient ce qui leur passait par la tête et pas forcément ce qu'ils voyaient à l'image. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la musique dans les salles n'était pas au départ pour apporter un support aux spectateurs, mais pour masquer le bruit du projecteur qui se situait au milieu de la salle et qui était extrêmement volumineux et qui faisait un bruit terrible. Donc les gens étaient un peu impressionnés parce qu'ils étaient dans l'obscurité. Et par la suite, on s'est dit, mais pourquoi n'utiliserait-on pas la musique pour justement ajouter une émotion supplémentaire? Et ça, ça n'arrive que dans les années 1910. Avant, on voyait un mariage, il fallait utiliser telle musique, on voyait une poursuite, c'était telle autre musique.
Il y a un très grand nombre de films qu'elle va réaliser pendant la période où elle va rester en France, hein, c'est-à-dire jusqu'en 1907. Et parmi eux, on se souvient en particulier d'un film qui s'appelle « Les résultats du féminisme », qui est un film féministe, comique, reposant sur l'inversion des rôles et en le caricaturant un petit peu, mais pas tant que ça, et où les femmes se prélassent et fument le cigare pendant que les hommes font le ménage et font la vaisselle. Elle va faire ce film tout à fait étonnant qui s'appelle « Madame a des envies », qui est un film en décor naturel, tourné dans les rues de Paris, de cette femme enceinte qui a des lubies de plus en plus improbables et limite perverses de relations très physiques, très tactiles, très sensuelles avec des gens ou des choses ou des êtres qu'elle rencontre en chemin et qui approchent alors vraiment de ce qu'on appellera, mais sensiblement plus tard, le surréalisme, qui font rendre visibles des fantasmes de l'inconscient d'une manière vraiment courageuse, très dynamique. Les films d'Alice Guy sont énergiques, sont avec une vitalité vraiment impressionnante. Il y a un film presque abstrait qui s'appelle « Le matelas épileptique », qui est juste de faire circuler dans l'espace public un objet qui est animé d'une sorte de volonté diabolique, d'une certaine manière. Tout cet ensemble de films témoigne d'une grande inventivité thématique, d'une grande inventivité technologique et d'une grande liberté d'esprit. C'est joueur, c'est transgressif. Il faut se souvenir que c'est fait pour faire des bandes qu'on veut vendre à la bonne bourgeoisie qui est susceptible d'acheter ces appareils-là. C'est pas pour être projeté dans des salles à ce moment-là. C'est pour être projeté à la maison, dans le cadre familial. Et c'est tout à fait étonnant. C'est la première décennie du XXe siècle. Une société quand même très verrouillée, très puritaine, habituée à des égards. En même temps, elle réalise le premier péplum, c'est-à-dire le premier film en costume se passant dans l'Antiquité et qui inaugure un genre tout à fait particulier qui aura une grande descendance à cette époque-là, qui est Une vie de Jésus-Christ, qui a aussi comme caractéristique d'être en longueur. Et de ce point de vue-là, elle invente aussi à ce moment-là le sérial, puisqu'elle tourne en fait un film qui dure un peu plus d'une demi-heure, ce qui est très long pour l'époque, mais qui en fait est découpé en petites rondelles qui se suivent et qui sont les épisodes de la vie de Jésus qu'elle reconstitue et qui va inspirer beaucoup de réalisateurs. Il y a une centaine au moins de vies de Jésus-Christ qui vont se tourner dans les 15 ans qui suivent partout dans le monde.
C'est un film très ambitieux. Il y a 25 tableaux. Elle veut retranscrire exactement, comme son nom l'indique, la naissance, la vie et la mort du Christ et la résurrection. Et elle fait appel au meilleur, à la crème des techniciens. Et elle va faire une super production pour l'époque, puisqu'il y a plus de 300 figurants, ce qui est jamais vu. Il y a aussi le fait qu'elle soigne énormément les costumes, les décors. Il y a un gros travail. Encore aujourd'hui, quand on voit le film, on est frappé par la qualité de la reconstitution. Comme ce sont des tableaux, donc des plans fixes, dans lesquels bougent les personnages, se muent les personnages évidemment, Alice Guy disait qu'elle voulait pour chaque plan reconstituer une composition picturale. constituer un tableau. Bon, c'est un peu poseur, c'est un peu, on sent que les personnages prennent la pose, mais en même temps, ça crée aussi une certaine poésie, une certaine beauté, ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire à l'époque. Hein. On filmait, il y avait plutôt l'envie de la vitesse, avec le cinéma comique où ça allait à 300 à l'heure, avec les tartes à la crème, etc. Alors qu'elle, elle va poser sa caméra et elle va prendre son temps pour filmer. Il y a l'agonie du Christ où elle fait durer le plan. Et il y a une sorte de beauté qui se dégage de ce plan. Et donc, Alice Guy, avec ce film, va marquer les esprits, parce que d'abord, c'est pas un film religieux ou théologique ou spirituel, sans doute, mais pas théologique, en tout cas. Elle est très fidèle à l'histoire, ça, c'est sûr, mais elle ne cherche à convaincre personne. Et elle essaie, au contraire, de faire une sorte de passion, un peu, entre guillemets, magique, c'est-à-dire quelque chose de très naïf, de très premier degré, mais en même temps, par cette frontalité au niveau de la mise en scène, elle réussit quelque chose de très poétique, je crois. C'est assez envoûtant. Les gens ont retourné plusieurs fois voir le film. Ça a été un immense succès.
Des pionniers tels qu'Alice Guy ont créé un public qui a pris goût à ce spectacle. Le cinéma laisse entrevoir des potentialités commerciales de plus en plus prometteuses et s'industrialise. Gaumont et Pathé créent leur salle de cinéma et développent leur filiale à l'étranger. C'est à ce moment que la carrière d'Alice Guy connaît un immense tournant.
Fin 1906, bon, elle a rencontré toute sa vie jusqu'à présent, était consacrée au cinéma. C'était son prince charmant, comme elle disait, donc elle travaillait uniquement pour le cinéma. Et à partir de 1906, lors d'une rencontre avec Herbert Blacher, qui était un opérateur anglais de la firme anglaise de Gaumont, département en Angleterre, elle tombe amoureuse de lui et il décide de se marier. Avec l'accord évidemment de Léon Gaumont, qui voulait avoir une prise sur tous ses salariés. Et en même temps, Gaumont commençait à trouver qu'Alice Guy était quelqu'un qui prenait de plus en plus d'ampleur, de plus en plus d'importance dans la société Gaumont, et commençait un petit peu à s'en méfier. Et donc, il va trouver le moyen d'envoyer Herbert Blacher aux États-Unis pour monter le chronophone, une invention nouvelle aussi, des Gaumont aux États-Unis, et Gaumont savait qu'elle allait le suivre. Donc, effectivement, elle va suivre son mari et elle va nommer à sa place le grand Louis Feuillade, donc directeur artistique de Gaumont, et il va y rester, il va faire tous ses grands films, ses séries, les Fantomas, les Vampires avec Musidora et Judex. Donc, il a fait près de 800 films. Feuillade, c'est vraiment, je crois, le plus grand cinéaste du cinéma muet avec Albert Gans, quoi. C'est vraiment les deux qui se détachent de cette période du muet. Et elle, quand elle suit son mari aux États-Unis, pour elle, le cinéma, c'est terminé. Elle pense que dorénavant, elle ne va plus jamais tourner de film parce qu'elle suit son mari. Elle va d'ailleurs avoir deux enfants assez rapidement. Et elle a fait une croix, même si elle est assez triste de cela, mais elle a fait une croix sur le cinéma. Et son mari la pousse un petit peu à retravailler. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle va monter une maison de production, la première véritable, avant les grands majors qu'on connaît, hein, la Columbia, l'Universal, la Paramount, etc., qui vont arriver à partir des années 10. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle va monter une maison de production qui s'appelle la Solax. Et avec la Solax, elle va tourner énormément de films. Et elle va devenir à nouveau réalisatrice.
Votre vie est remplie d'événements assez extraordinaires. Mais l'un des plus extraordinaires, c'est peut-être, d'abord évidemment, la première idée de film à base de scénario. Mais d'autre part, le fait que vous soyez un jour parti pour l'Amérique pour faire du cinéma. Oui. Et là, il fallait quand même pour une jeune femme, très jeune femme, une volonté extraordinaire, un esprit d'entreprise pour partir pour l'Amérique.
Non, je dirais que, voyons, ça a été mon sort, si vous voulez. Nous avons acheté un terrain à Fort Lee, dans le New Jersey, qui était la grande cité du cinéma à l'époque.
Oui, Hollywood n'avait pas encore du tout de développement.
Ah non, du tout.
Tout se passait près de New York, oui,
dans
New Jersey.
Hollywood était encore une ville où sur les portes on mettait ni chien ni cinéaste. Alors, c'était très bien. Mais enfin, là, nous avons... Alors, j'ai donc eu mon studio pendant quelque temps seul, puisque mon mari était encore pris par son contrat.
Comment on peut se représenter un studio comme celui de la Solax? Comment ça fonctionne au tout début du XXe siècle?
Alors, à ce moment-là, il y a déjà plusieurs studios dans cette zone-là. Hein. C'est le New Jersey, en fait, l'État américain dans lequel ça se situe, qui est là où Thomas Edison avait construit ses premiers studios et qui sont des bâtiments en bois avec des dispositifs pour laisser rentrer la lumière. On a peu, voire pas d'éclairage artificiel. On repose principalement sur la lumière du jour, mais on a des systèmes de miroirs et de grands vitrages qui permettent une utilisation maximum de la lumière et avec des décors construits. Donc c'est un vrai studio de cinéma qu'elle dirige à tout point de vue, puisqu'elle en dirige pendant un certain temps au moins aussi bien le côté administratif et économique que artistique. Elle pilote un immense programme de production qui demande énormément d'accessoires, il faut des chevaux, c'est assez lourd comme appareillage pour faire exister ces films qui, à ce moment-là, ont des durées beaucoup plus longues, d'environ 45 minutes, ce qui est devenu l'essentiel du cinéma dans les années 1910. Hein, parce que là, on parle essentiellement des années 1910.
Et comme c'est quelqu'un qui a une volonté de faire, c'est vraiment une femme qui a beaucoup de volonté, elle va s'imprégner du goût des Américains par rapport au cinéma naissant, et elle va essayer de faire des films correspondant au goût des Américains. Et évidemment, à l'époque, ce qui domine, c'est le western. C'est le seul genre véritablement installé aux États-Unis au début du cinématographe, avec la série des Bronco Billy, etc., et aussi l'arrivée du plus grand pionnier américain, qui est David Waugh Griffiths, hein, qui va commencer à tourner à partir de 1908. Et donc, elle a déjà une vision un peu du cinéma. Elle va aller dans des réserves indiennes, elle va aller dans les prisons, notamment à Sing Sing, pour s'imprégner un peu, faire des films de prison, de gangsters, etc. Et donc, elle va devenir très populaire auprès du public, et elle va tourner beaucoup de films, et notamment des westerns et des mélodrames, qui vont être les deux genres qu'elle va préférer tourner aux États-Unis.
Vous avez rencontré, vous avez été dans des milieux particulièrement pittoresques pour faire ces films.
Mais j'ai voyagé un peu dans toute l'Amérique. Oui.
Vous avez même été en prison.
Eh bien, nous faisions à ce moment-là une étude sur la traite des Blanches.
Ah oui.
Et j'ai voulu savoir comment ça se passait naturellement. J'ai fait des études d'abord avec une avocate qui s'occupait particulièrement du cas, car il y en avait des quantités à New York. Et j'ai donc visité d'abord le tribunal de minuit, où il y avait de malheureuses gosses de 14 ans. Et puis, j'ai trouvé au Tombs, c'est-à-dire, comment appelle-t-on ça, là où on mesure les prisonniers. Et j'ai vu un bonhomme qui avait été condamné à 2 ans, parce qu'il avait embrassé une femme dans la rue sans son consentement. 2 ans de prison. Et j'ai donc suivi ce bonhomme. On a fait les mensurations. De là, on m'a prise avec lui dans la voiture cellulaire et nous sommes allés à Sin Sin, qui est une vraie vieille prison très ancienne. Et à Sin Sin, on a habillé ce malheureux, on l'a rasé, on l'a mis dans le costume des forçats à l'époque. Oui. Et puis, je suis donc, en attendant, je passais dans les couloirs et je voyais les prisonniers qui passaient avec leur boule de sang sous le bras et qui me regardaient d'un air pas aimable, je vous assure. Ensuite, on m'a mené aux endroits où il y avait les cellules de condamnés à mort. On m'a fait asseoir dans la chaise électrique. On m'a mis les poignets.
On a pas mis le courant quand même.
Non.
Partout où elle va, Alice Guy pousse les portes, rencontre des gens, interroge, observe. Elle s'imprègne des réalités sociales de l'Amérique. Son goût du réel se traduit aussi dans sa façon de diriger les comédiens. Dans ses studios s'affiche partout son credo, « Be natural », « Soyez naturel ».
C'est une pionnière dans tous les sens formidables du mot, c'est-à-dire la première et innovant sans arrêt.
Jacques Ibué, directrice du Festival du film de femmes de Créteil.
Elle a fait des westerns, elle a fait des films de poursuite, elle a utilisé et mis en scène des animaux, y compris des fauves. Elle a été incroyable, quoi. Elle avait aussi un point de vue sur le travail des comédiens. Donc, elle est allée très loin dans l'élaboration du jeu pour l'image.
J'avais mis dans mon studio des notes partout. Soyez naturel. C'est tout ce que je leur demandais.
Et Be Natural à l'écran, ça donne quand même de très beaux résultats. Parce que le cinéma muet, parfois, est un peu pesant, parce que les comédiens en font beaucoup. On est dans la pantomime. Les comédiens chez Alice Guy restent quand même très dans l'interprétation et la présence à l'image. Il n'y a pas comme ça une volonté de surjouer comme dans beaucoup de cinémas muets de l'époque.
Je vais prendre deux films, si vous voulez, qui sont vraiment très significatifs de cette période américaine. Le premier s'appelle Falling Leaves, donc les feuilles qui tombent. Et en fait, c'est un mélodrame très naïf, mais en même temps qui montre la croyance d'Alice Guy au cinéma. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'une petite fille qui apprend par la voix d'un médecin que sa sœur, qui était très malade, va mourir prochainement. Et qu'elle mourra dès qu'il n'y aura plus de feuilles sur les arbres. Et donc, elle va essayer de ramasser les feuilles par terre, les feuilles mortes, et les recoller comme ça dans les arbres pour retarder le plus possible la mort prochaine de sa sœur. Et jusqu'au moment où il y a un médecin qui arrive et qui va évidemment trouver un remède pour sauver sa sœur. Et ça se termine dans une sorte de happy end. Voilà. Donc c'est évidemment naïf de ce point de vue-là. Mais en même temps, on pourrait dire que ça peut être une fable aussi. Un conte dans les contes ou dans les fables, c'est assez basique. Et là, elle y va vraiment. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle croit à l'émotion que peut procurer le cinéma. Et d'ailleurs, ce film, Falling Leaves, aura un succès fou auprès des spectateurs qui allaient voir dans les salles de cinéma ou dans les Nickelodeon, qui étaient les premières salles de cinéma américaine. Et là, vraiment, c'est un film qui a marqué les esprits. Le deuxième, alors là, c'est un film féministe. C'est un film vraiment féministe, parce que je dirais pas forcément que Alice Guy est une cinéaste féministe, mais pour celui-là, oui. Je dirais que c'était un cinéma au féminin, c'est un cinéma qui prend soin des femmes, de la pauvreté aussi. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la pauvreté dans certains films mélodramatiques où elle veut combattre la pauvreté, notamment des enfants qui étaient souvent très pauvres. Il y a beaucoup de films dans le cinéma muet américain où on voit des enfants livrés à eux-mêmes. Et là, ce deuxième film s'appelle, alors le titre français, c'est L'Américanisé. C'est l'histoire d'un couple d'émigrants russes qui s'installent aux États-Unis et le mari est présenté comme un bourreau, comme un être absolument abject, très violent, très brutal, qui n'arrête pas de frapper sa femme. D'ailleurs, le premier plan du film, c'est la femme qui tient la carriole et le mari est assis tranquillement et il lui demande d'aller plus vite. Et donc, cet homme va subir les foudres des habitants du village où il s'installe et on va lui dire... En Amérique, on ne torture pas, on ne frappe pas, on ne brutalise pas une femme. Donc c'est aussi un film qui revendique la démocratie américaine par rapport à la Russie, etc. Bon. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le personnage va subir une sorte d'apprentissage, va changer son caractère, sa personnalité, parce qu'à chaque fois, il est conspué en quelque sorte par les gens qui disent « Non, il faut que vous comportiez mieux avec votre femme et avec les femmes en général. » Et à la fin, il va devenir un époux modèle. Il va devenir quelqu'un de très bien, qui va aimer sa femme, qui va être gentil avec elle, etc.
Et dans cette période américaine de Alice Guy Blacher, il y a un film remarquable qui est A Fool and His Money.
C'est un film important, une fois de plus, dans l'histoire du cinéma. Il est considéré comme le premier film dont l'ensemble des interprètes sont noirs. C'est un projet de film qu'elle avait où normalement il y aurait dû avoir des acteurs blancs et des acteurs noirs. Les blancs refusent de jouer avec des noirs. À l'époque, on ne jouait pas, on ne faisait pas jouer, sauf une production tout à fait marginale qui était faite que pour le public noir où les noirs jouaient. Mais sinon, tout le reste du cinéma, quand il devait y avoir des personnages noirs, c'était des blancs qu'on maquillait, qu'on grimait, ce qu'on appelle le blackface, qui est devenu à juste titre quelque chose de très dénoncé aujourd'hui. Et elle refuse de recourir au blackface, et donc elle dit si c'est comme ça, tous les personnages seront noirs. Et elle raconte cette histoire qui n'est pas une histoire de noir, qui est une histoire.
L'histoire du film A Fool and His Money est celle d'un amoureux éconduit qui pense que sa richesse soudaine va pouvoir régler ses problèmes de cœur. Une histoire classique d'illusion, de trahison et de vengeance, tournée dans des intérieurs bourgeois typiques de la société blanche américaine de l'époque. Encore une fois, dans ce film de 1912, Alice Guy se joue des codes. Un film longtemps disparu, redécouvert à partir de rouleaux trouvés sur un marché aux puces et restauré image par image. Thank you. Il y a eu un projet de film qui était très précurseur aussi, Scholl's Parents Decide, en 1916. Les parents devraient décider. Donc c'était un projet de film autour du planning familial.
Non, elle a donc ce projet de film autour du planning familial qui va être bloqué par les églises et les ligues de vertu qui sont extrêmement actives aux États-Unis et qui sont très interventionnistes dans le milieu du cinéma à cette époque-là, mais qui fait partie des projets très directement inspirés par un rapport, je ne sais pas si c'est juste de dire féministe, mais en tout cas préoccupé, attentif aux enjeux de société et notamment à la place des femmes et en l'occurrence aussi de la famille. Ce qu'elle a apporté au cinéma est un autre regard, une autre tonalité. La dimension féminine et féministe est importante, mais n'est pas la seule. C'est une sensibilité, on pourrait dire, à des enjeux de société qui est plus ample que cet unique mode d'approche.
Dans la période américaine, les scénarios sont plus complexes. Moi, j'aime beaucoup un film qui s'appelle The Ocean Wave et qui date de 1916. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a été récupérée par un homme qui est un peu son père d'adoption, qui la maltraite et qui s'échappe et qui va s'installer dans une maison hantée dans laquelle arrive un écrivain et finalement qui écrit justement sur la maison hantée. Et il y a donc une connexion entre les deux qui va se faire. Ils vont tomber amoureux. Un film qui est assez sophistiqué au niveau du scénario, avec plein de filtres différents pour exprimer la lumière du jour, la lumière de la nuit, puisqu'elle se promène la nuit en fait, dans la maison, et qui est construit aussi avec des flashbacks. Ça, je n'en ai pas vu souvent, en fait, dans 1916. Des flashbacks qui racontent l'histoire de cette jeune fille, voilà, c'est pas très fréquent. En fait. Et c'est assez sophistiqué, ce scénario, c'est très abouti. Hein.
Donc Alice Guy, aux États-Unis, est une femme d'entreprise qui a beaucoup de succès. Ses films rapportent de l'argent. Il y a un moment où le studio marche très bien, les films sont connus, vus, ils ont un certain succès.
Tout à fait. Il y a un moment où ça marche bien, mais où elle commet l'erreur de confier la gestion de l'entreprise à son mari, qui va la ruiner, qui va faire des accords qui ne sont pas de bonnes affaires avec d'autres sociétés. Et finalement, l'entreprise Solax va se retrouver en faillite.
Hollywood va prendre le relais, donc ça va être chapeauté par des majors, et tout d'un coup l'argent va être le nerf de la guerre et plus la démarche artistique. On va donc faire confiance plutôt à des hommes qu'à des femmes pour gérer les budgets. C'est valable pour Lois Weber ou d'autres comme Dorothy Arzner aussi. Donc il y a eu une période faste pour les femmes qui a après ont été balayées par l'industrie du film qui s'est instaurée, alors là avec la hiérarchie des rôles, la prédominance de l'argent et donc le fait qu'on ne puisse pas donner à une femme la direction d'une telle entreprise.
Alice Guy finira comme réalisatrice et productrice par travailler un peu pour d'autres sociétés une fois que la Solax a été dissoute. Puis, d'une part, achèvera d'être ruinée par son divorce et d'autre part, les locaux, les entrepôts où étaient ses films vont brûler. Et l'immense majorité des pellicules, des bobines, va disparaître à ce moment-là. Et donc, c'est très violent. Hein. On est au début des années 20. Entre 1920 et 1922, entre guillemets, elle perd tout aux États-Unis et elle rentre en France.
Et donc, elle va revenir en France avec ses deux enfants, et ça va être pour elle un déchirement, et elle va essayer néanmoins de recoller au wagon du cinéma qu'elle a connu elle, mais malheureusement ça ne va pas pouvoir réussir, dû à plusieurs éléments, notamment à Gaumont qui va refuser de la revoir. Elle va avoir une proposition à un moment donné pour diriger les studios de la Victorine, qui sont les fameux studios niçois, et malheureusement ça ne va pas aboutir là non plus. Elle va voir que les portes sont fermées parce que les gens, soit ne connaissent pas son nom, même les gens à l'époque, dans les années 20, ou ne veulent plus entendre parler d'elle parce qu'elle représente un cinéma, y compris dans les histoires, dépassé. Son temps est passé, en quelque sorte. Elle a été à l'origine du cinématographe, mais elle n'a pas suivi forcément les mouvements techniques. Elle a suivi la trame artistique, c'est-à-dire qu'elle avait un vrai regard, elle avait plein d'idées, au niveau artistique, mais elle était restée un peu dans une sorte de cinéma primitif. Et 1920-22, on n'est plus déjà dans le cinéma primitif. Car quand on met bout à bout un film d'Alice Guy des années 1904-1905 et à partir de 1920 un Chaplin ou un Murnau, il y a une grande différence quand même, hein. Et la différence de la narration. Elle a fait comme elle a pu au début, hein. Elle suit des mouvements de caméra qui sont très liés au théâtre, qui sont des mouvements fixes. Évidemment, dans les années 20, quand on voit le génie de Murnau, par exemple, quand on voit Nosferatu ou Faust ou, je ne sais pas, Le Dernier des Hommes, il y a la caméra qui n'arrête pas de bouger. Il a inventé, Murnau, le concept de caméra mobile. Donc, c'est-à-dire que la caméra qui suit comme ça les personnages, qui les précède, qui fait un point de vue subjectif. Il n'y a pas de point de vue subjectif chez Alice Guy, évidemment. C'est-à-dire, vous voyez, on a un point de vue, un regard, par exemple dans Falling Leaves, de la petite fille. Le film est vu à travers ses yeux. Mais il y a les autres personnages autour qui gravitent. Alors que dans, par exemple, Le Dernier des Hommes, tout le film est vu depuis les yeux d'Emile Jannings, ce portier qui est désavoué par sa direction et qui sombre dans la misère. Donc là, c'est autre chose. On passe à la vitesse supérieure avec Eisenstein, évidemment. Cuirassé Potemkin, avec sa quatrième partie, où on voit la descente comme ça, des escaliers, etc. Bon, avec un travail sur le montage. Ben, par exemple, la notion de montage est fondamentale. Chez Alice Guy, il n'y a pas de montage. Même chez Chaplin, hein, il y a du montage. Et donc, le montage va apporter un élément supplémentaire dynamique à la mise en scène. Le montage ne va même plus respecter la chronologie, par exemple, des faits, mais va mélanger des temporalités, etc. Et là, on rentre dans le cinéma, où on peut dire beaucoup de choses. Alors, Alice Guy, que va-t-elle faire? Elle va écrire des contes, elle va écrire des nouvelles. Très tardivement, elle va écrire son autobiographie. Ça, c'est sa partie où elle va rester en contact un peu avec la création. Et elle va essayer d'aller à la Cinémathèque, quand la Cinémathèque va arriver en 1936, grâce à Henri Langlois et Georges Franju, elle va essayer de reconstituer sa filmographie. Chose extrêmement difficile, pratiquement impossible, c'est que jusqu'en 1910-1912, les films n'étaient pas signés. Il y avait juste le nom du film, et ensuite il y avait des intertitres qui arrivaient. Donc elle va essayer de reconstituer les films, donc à la Cinémathèque, elle va quand même avoir la possibilité de voir des films, beaucoup de films, et là, elle va dire, oui, là, c'est moi, là, non, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc, c'est uniquement d'après sa mémoire, d'après ses souvenirs propres, qu'elle va essayer de reconstituer sa filmographie.
Jacques Ibuet, vous êtes directrice du Festival de films de femmes de Créteil. Vous l'avez fondé en 1979, donc c'est la 42e édition qui aurait dû avoir lieu cette année. Et vous êtes une grande admiratrice, amatrice de l'œuvre d'Alice Guy.
En 1995, pour le centenaire du cinéma, la Commission européenne m'a demandé de prendre en charge le magazine européen sur l'année du cinéma du côté des femmes. Donc là, j'ai investigué à fond ce qui existait comme film d'Alice Guy.
En quoi le cinéma d'Alice Guy est-il un cinéma de femmes?
On voit bien que le rapport homme-femme ou l'inversion du rapport homme-femme l'intéresse beaucoup. Donc la notion de masculin-féminin est complètement évidente à l'image et elle joue beaucoup des codes. Moi, j'adore ce film qui s'appelle Madame a des envies, où il s'agit de suivre une femme enceinte. Comme on le sait, paraît-il, les femmes enceintes ont des envies. Donc elle, tout ce qui passe, une sucette, un verre de vin, elle bondit, elle s'en empare et elle se délecte. Et là, dans le style d'Alice Guy, on est ravi de voir cette femme radieuse, alors que c'est quand même très insolent de faire ce qu'elle fait. Et donc c'est une belle image de femme émancipée quand même. Il y a un autre film qui s'appelle, je ne sais plus si c'est Les conséquences du féminisme. Les résultats du féminisme, voilà, c'est ça. Les femmes occupe des rôles d'hommes au bar, derrière le bar, et tout. Et les garçons font les femmes. Les hommes font les femmes. C'est très, très rigolo, parce que là, on voit bien qu'il y a un rapport hiérarchique entre les individus hommes et femmes. Comme on n'a pas l'habitude de voir les hommes soumis, en attente, dans le silence, derrière, bah, tout d'un coup, en inversant ça, elle montre bien où sont les rôles dans la société. Elle s'en amuse beaucoup. Et il y a un autre film, Making of an American Citizen. C'est un film d'éducation à l'égalité homme-femme. Presque un film pour les droits des femmes. Toutes les interprétations sont ouvertes, mais je pense que la ligne de dire c'est un cinéma très féminin avec un point de vue et un regard de femme, il n'y a pas de doute.
Et comment cette personnalité aussi riche, innovante et qui avait du succès de son vivant, c'est pas du tout quelqu'un dont l'œuvre a été méconnue de son vivant, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle tombe dans cet oubli?
Alors Alice Guy, oubliée de l'histoire du cinéma, malgré son œuvre, malgré son succès public dès les débuts, c'est pour moi lié d'abord au fait qu'elle soit une femme et que le cinéma s'est organisé assez rapidement dans une profession qui hiérarchisait les rôles. Et comme au générique, on ne reconnaissait pas qui avait fait quoi, on l'a écartée de la réalisation alors qu'elle était maître d'œuvre de ses films. Ensuite, il y a le rôle des historiens qui, à leur manière aussi, font de la misogynie en évacuant les femmes. Je dois dire que chez Gaumont, je n'avais pas ressenti en 1995 l'urgence pour eux, dans le centenaire du cinéma, de remettre Alice Guy en valeur. Moi, je l'ai fait, j'ai acheté les copies, j'ai sous-titré en anglais, j'ai fait une tournée dans toutes les grandes villes d'Europe. Berlin, Barcelone, Vienne, Londres et dans les villes de province. Et les gens ont rencontré Alice Guy cette année-là. Et j'ai démarché Gaumont, qui trouvait que c'était une idée bizarre. Bon, et ils ont accepté puisque je payais les droits de diffusion. Donc je pense que la hiérarchie des rôles, la misogynie du milieu, le fait qu'une femme ne soit pas reconnue dans un métier qui a été qualifié assez rapidement d'un métier d'homme, font qu'elle a été évincée, mais ça s'est reproduit pour d'autres.
Véronique Lebris, vous avez créé la revue de cinéma cinewoman.fr et vous avez co-créé le prix de cinéma Alice Guy, qui récompense l'œuvre d'une réalisatrice produite dans l'année. Pour vous, sa filmographie représente combien de films, à peu près?
Alors, aux États-Unis, ils disent qu'elle aurait tourné entre 2000 et 8000 films. Ça va jusqu'à 8000 films. Bon, évidemment, il y a des pastilles, il y a des choses qui durent quelques secondes. Je pense qu'elle a dépassé le millier. Dans tous les films qui ont été retrouvés chez Gaumont, dans la base de données, je crois que j'avais compté, il y a presque une centaine de films déjà. Et on sait qu'il y en a évidemment beaucoup qui ont été perdus, ce qui est normal. Hein. Mais vu l'époque, enfin, vu la pellicule nitrate là, qui flambait assez facilement, donc il y a ça, et il y a cette période de la Solax, où il est établi quand même qu'elle tournait un film par semaine. Donc de 1910 à 1917, ça fait quand même pas mal de semaines. Donc j'imagine que... Oui, elle a une production... très très importante, très dense, qu'on va d'ailleurs, qu'on continue à redécouvrir.
Et comment se fait-il qu'une réalisatrice qui a eu une telle œuvre, comment se fait-il qu'elle soit tombée dans l'oubli?
Alors comment ça se fait qu'elle ait disparu? Alors d'abord, on ne se souvient pas de tous les pionniers, il faut quand même être honnête. Que ce soit des hommes ou des femmes, généralement, il y a un tri qui est fait. Et c'est vrai qu'elle, ce qui est douloureux, c'est qu'on se souvient plus de Louis Feuillade, qui était quand même son assistant et qu'elle a recommandé auprès de Gaumont et qui a une période plus courte qu'elle. On attribue beaucoup à Méliès tous les effets spéciaux, alors qu'elle a contribué au moins à la même hauteur. Et c'est vrai que la légende du cinéma raconte plutôt que ce sont les frères Lumière qui ont inventé le cinéma, et donc elle passe un peu à la trappe. Alors moi je pense, c'est vraiment ma théorie, c'est qu'elle n'a pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui raconte sa légende déjà. Je pense que ce qui a joué contre elle, un peu... Alors d'abord, Léon Gaumont n'a pas été très chic, parce que quand elle est revenue en France, il a écrit ses mémoires et il l'a complètement zappé. Donc, et puis je pense que le fait que ses films étaient difficiles à voir, même impossibles à voir, donc ça ne permettait pas vraiment d'avoir une idée de ce qu'elle avait vraiment apporté au cinéma. Elle avait peu théorisé, puisqu'elle avait vraiment agi... elle avait pris une caméra et elle avait filmé. Elle avait été plus dans l'action que dans la réflexion, en fait, on peut dire ça. Et puis, autrement, il y a eu aussi ce mouvement des historiens du cinéma, enfin, de ceux qui sont attribués, disons, les grandes histoires du cinéma, qui sont des critiques. Donc, c'est des critiques. Donc, ils fonctionnent un peu, d'une certaine façon, à la subjectivité, qui n'ont pas du tout servi sa cause. Et donc, ces hommes qui ont eu autorité, disons, sur l'histoire du cinéma en France, en tous les cas, l'ont complètement évacué, n'ont jamais accordé la place qu'elle méritait.
Il faut avoir bien en tête quand on évoque tout ça, combien toute cette période reste encore difficile à décrire de manière précise. Énormément des films du muet, surtout des débuts du muet, sont perdus, sont détruits. Les informations sont partielles encore, même si beaucoup de recherches ont été effectuées, mais assez récemment, sur l'histoire des débuts du cinéma. Et donc, il y a des zones d'ombre concernant Alice Guy qui font partie, sans doute, probablement, du fait que c'est une femme et qu'on ne l'a pas considérée comme elle le méritait, mais qui font également partie du fait que cette période-là est loin d'être limpide. Il y a une histoire de la présence d'Alice Guy dans le cinéma. Cette histoire existe, cette histoire n'a jamais été suffisamment visible jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu une minimisation de l'importance d'Alice Guy. Il y a les deux.
Ni une conspiration misogyne volontaire, mais plutôt le reflet d'une société qui, de toute façon, ne regardait pas forcément beaucoup à l'œuvre des femmes et manquait de documentation à son égard.
Oui, mais moi j'ajouterais un troisième élément à ces deux-là, qui sont tout à fait exacts, qui est l'habitude. On a tendance à re-raconter la même histoire. Et c'est intéressant le cas d'Alice Guy pour voir comme il y a eu une sorte d'habitude. Et un des meilleurs exemples, c'est le cas d'un des plus grands historiens du cinéma, Georges Sadoul. Il écrit son histoire mondiale du cinéma, il ne parle pas d'Alice Guy. La première édition en 1947, elle est là, elle est à Paris, Alice Guy, elle va le voir. Et il dit, mais vous avez raison, et j'ai tort, mais il y a une prochaine édition, je vais vous mettre dans ma prochaine édition. Et il le fait, mais les choses montent doucement. Et donc, c'est important de continuer à préciser, à déployer, et à aller voir ce qu'elle a fait, parce que ce qu'elle a fait, c'est la première femme de l'histoire du cinéma mondial, il n'y a pas de doute sur la question, mais c'est bien autre chose encore. C'est une grande artiste. Les films sont magnifiques, c'est beau. Il y a un sens du cadre, il y a un sens du rythme, il y a un sens des visages, il y a un sens de l'action. C'est une cinéaste au sens le plus fort du terme. Et puis, dans les sujets qu'elle aborde, elle fait des westerns, elle fait des mélodrames, elle fait des films sociaux, elle fait des comédies, elle touche à tous les genres, et une attention à la société tout à fait remarquable.
Le cinéma, Alice Guy, 1873-1968, La femme aux mille films. Avec Jacques Ibuet, directrice et cofondatrice du Festival du film de femmes de Créteil. Daniel Chocron, historien du cinéma et auteur de Alice Guy, pionnière du cinéma aux éditions Le Jardin d'essai. Jean-Michel Frodon, critique de cinéma sur Slate.fr et professeur à Sciences Po à l'École des arts politiques. Et Véronique Lubris, journaliste fondatrice de la revue Cinewoman.fr et cofondatrice du prix de cinéma Alice Guy. Martin Scorsese était traduit dans la voix de Thierry Beauchamp. Le livre des mémoires d'Alice Guy est distribué par la librairie Appel au 20 boulevard Voltaire à Paris. Recherche INA, Sophie Enoch. Attachée d'émission, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire d'Élise Gruot, réalisé par Vincent Deck.
Vous trouverez bibliographie, podcast, réécoute et bonus sur la page Toute une vie sur franceculture.fr, une page préparée et enrichie par Sylvia Favre et Quentin Vaganet.